Comme c'est les vacances, je vous propose de prendre ce matin des chemins de traverse, d'emprunter un sentier peu connu. En effet, aujourd'hui, nous allons lire le petit livre de Jude. L'épître de Jude est un petit livre d'un seul chapitre qui se trouve à la fin du Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. C'est donc l'avant-dernier livre de la Bible. Comme toutes les épîtres, celle-ci était destinée à être lue en Église, et c'est pourquoi nous allons ce matin profiter de ce qu'elle est courte pour la lire entièrement. Lisons donc la lettre de Jude. À partir du premier verset. Judas, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de notre salut commun, j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Seigneur Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Vous qui savez tout cela, je souhaite rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple de l'Égypte, a fait ensuite disparaître ce qui a fait refuser de croire. Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure, ils les gardent dans des liens éternels au fond des ténèbres, en vue du jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui d'une manière semblable se sont livrés à l'inconduite sexuelle et ont couru après des êtres d'une autre nature, sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. D'une façon semblable, eux aussi, au gré de leurs rêves, souillent la chair, méprisent la seigneurie et injurient les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te rabroue !» Eux, au contraire, ils injurient ce qu'ils ne connaissent pas, et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux dépourvus de raison, c'est cela même qui les pourrit. Malheureux sont-ils, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'écarment de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés, et c'est dans la révolte de Corée qu'ils ont disparu. Ces gens-là sont les écueils de vos repas fraternels où ils festoient et se repaissent sans crainte, nuées sans eau, emportées par les vents, arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le septième depuis Adam, a dit en prophète « Le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. » Ce sont des gens qui maugréent, qui se plaignent de leur sort et qui vont au gré de leurs propres désirs. Leur bouche parle avec une monstrueuse insolence alors qu'ils flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient « Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui iront au gré de leurs propres désirs en impie. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres animaux, ceux qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez compassion de ceux qui hésitent. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Voilà pour notre lecture. Si le livre est court, il n'est pas forcément limpide à la première lecture. Et pour être honnête, je me suis demandé dans quelle galère je m'étais embarqué alors que je préparais ce que j'allais vous dire. Ce texte est extrêmement riche et en une demi-heure de prédication, ce sera difficile de faire autre chose qu'un survol. Mais je crois, j'espère, que nous pourrons en tirer de quoi nourrir notre vie chrétienne, de la nourrir pour aujourd'hui. Tout d'abord, quelques mots pour situer la lettre. L'auteur se présente comme étant Judas dans la traduction que j'ai lue. Jude, le frère de Jacques. Il s'agit certainement de Jacques, l'auteur de l'épître du même nom, responsable de l'église de Jérusalem, et Jacques qui se présentait comme le frère du Seigneur. Donc Jude est certainement un des frères de Jésus. Jude le dit au début de sa lettre, il ressent un appel à écrire. Il désirait écrire une lettre exposant le salut, sans doute une lettre conséquente, mais c'est pour un sujet plus urgent qu'il écrit. Une préoccupation urgente qui l'amène à écrire cet épître, maintenant, dans l'urgence, quelque chose de court, ramassé. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une charge contre des personnes qu'il ne nomme pas, on l'a vu à la lecture, eux, ils, ce sont des faux prophètes, de faux enseignants, des propagateurs de faux enseignements. Il était courant au premier siècle d'avoir des prédicateurs itinérants qui se rendaient d'église en église pour enseigner. Et malheureusement, tous n'avaient pas un message très orthodoxe. Et c'est pour contrer un mauvais enseignement qui s'installe que Jude se voit contraint d'écrire. Quel était donc cet enseignement ? Eh bien, nous ne le savons pas. Je me souviens de cette remarque qu'avait faite une fois Samuel en prêchant sur une épître de Paul, si ma mémoire est bonne. Avec les lettres du Nouveau Testament, nous avons les réponses, mais malheureusement, il nous manque les questions. Mais quelque part, bien c'est une bonne chose. Certes, c'est frustrant de lire un texte comme celui-ci. Ça demande un travail pour, à partir de ce que dit l'apôtre, imaginer le problème auquel il répond. Mais ce travail de réflexion, c'est une bénédiction. Ce travail, il nous permet, au passage de notre étude, au passage de notre réflexion, de voir ce qui en nous ne va pas, de nous interroger sur nous-mêmes, que ce soit nous, que ce soit notre Église, que ce soit le monde dans lequel nous vivons. Quand l'apôtre dit de ceux qu'il combat qu'il renie Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur, il ne faut pas penser que ces hommes arrivaient dans les églises en déclarant « Je renie Jésus-Christ ». Non. Si tel était le cas, Jude n'aurait pas eu besoin d'écrire. Non, c'est par un enseignement déviant, par leurs actions en désaccord avec le message biblique, que ces enseignements renient le Seigneur Jésus-Christ. Du coup, lorsque nous lisons la lettre de Jude à la recherche d'indices, essayant de comprendre en quoi ces hommes renient Jésus-Christ, eh bien, au moment où nous la lisons, nous nous posons nous aussi la question. Et nous ? Où en sommes-nous ? N'y a-t-il pas dans notre comportement des germes d'une déviance qui, si nous n'y prenons pas garde, nous amènerait à renier Jésus-Christ ? C'est donc ce que je vous propose ce matin, sonder rapidement le texte de Jude à la recherche d'indices nous indiquant les déviances de l'époque, et chemin faisant, nous aurons certainement l'occasion de nous interroger sur nos pratiques, sur notre époque. Comment Jude procède-t-il ? Tout au long de sa courte lettre, il alterne entre la condamnation de ce qu'il voit et des exemples tirés à la fois de l'Ancien Testament et de la littérature connue à l'époque. En effet, et c'est un peu inhabituel, c'est un peu perturbant, Jude prend des exemples dans des écrits extra-bibliques. Ça peut troubler parce qu'il les prend dans ce qu'on appelle des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui parlent d'événements touchant le peuple de Dieu, qui du coup ressemblent à la Bible, mais qui ne sont pas reconnus comme faisant partie de la parole de Dieu. Alors, il y a un peu de crispation parce que certains considèrent ces livres comme sacrés. Et ces gens peuvent dire, vous voyez, même Jude les cite. Mais ce n'est pas parce que Jude les cite qu'il les considère comme sacrés. Dans la Bible, quand la parole de Dieu est citée, elle est très souvent introduite par « il est écrit ». Et là, c'est cité simplement comme une référence qu'a Jude, et qu'il partage avec ses interlocuteurs. Et finalement, c'est assez naturel. Quand on discute avec d'autres personnes, il peut être intéressant de citer des références que les gens que nous côtoyons connaissent et comprennent. Et certaines de ces références peuvent être très pertinentes pour illustrer ce que nous avons à dire. Je vais vous donner un exemple. Connaissez-vous le groupe de hard rock AC/DC ? Ce groupe australien chante une chanson qui se nomme « Highway to Hell », qu'on pourrait traduire par « Autoroute pour l'enfer ». Je les cite. « Vivre facilement, aimer librement, un abonnement pour un sens unique. Ne me demandez rien, laissez-moi vivre, tout prendre sur mon passage. » Je n'ai pas besoin de raison, pas besoin de rime. Il n'y a rien de mieux à faire. S'écrouler, faire la fête. Mes amis vont être là aussi. Je suis sur l'autoroute pour l'enfer. Cette chanson est tristement prophétique. Franchement, quand on se lit ce texte, mais ils ont raison. Celui qui fait ce qu'il veut, en se moquant des conséquences, il est en route pour l'enfer. Et bien que ce ne soit pas dans la Bible, cette citation aurait sa place dans une prédication sur le péché et le jugement, non ? Revenons à Jude. Donc de ces exemples, qu'ils soient de l'Ancien Testament ou de la littérature apocryphe, ils montrent par comparaison combien les faux prophètes qu'ils dénoncent agissent mal. Et surtout, ils montrent qu'ils sont condamnés. Alors, que font ces faux prophètes ? Quel enseignement dispense-t-il dans les églises où il passe ? Tout d'abord, ses enseignants mènent une vie dissolue. Ils changent en débauche la grâce de notre Dieu, écrit Jude au verset 4. On parle là d'immoralité sexuelle. Dans le christianisme, nous sommes tous frères et sœurs, il n'y a plus ni homme ni femme, les séparations tombent. Cela crée des proximités entre hommes et femmes qui n'étaient pas forcément courantes à cette époque. Et certains pensent que ces relations plus libres doivent aussi être libres sur le plan sexuel. Cette idée va dans le même sens qu'un mouvement religieux qui se développe à l'époque, le gnosticisme. L'idée du gnosticisme, c'est, pour simplifier grossièrement, quelque chose qui quand même est un peu plus complexe, c'est que l'homme a une âme divine et que cette âme divine est enveloppée dans une enveloppe charnelle qui le retient prisonnier. L'âme est la partie éternelle de l'homme et tout ce qui touche au corps, au charnel, c'est sale, c'est mauvais. Et du coup, pour certains, on peut faire ce qu'on veut avec le corps, c'est pas grave. Lui, il reste. C'est pas lui qui intéresse notre relation avec Dieu. Donc on va faire ce qu'on veut, en particulier sur le plan sexuel. Mais cette débauche vaudra à ses enseignants le même jugement que Sodome et Gomorre, ces villes qui se livraient elles aussi à la débauche et qui ont été détruites dans le récit qui nous est rapporté en Genèse. Une autre chose qui est reprochée aux faux prophètes, ils injurient les gloires, au verset 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraisemblablement, ces hommes injurient les esprits. Peut-être pensaient-ils pouvoir s'attaquer frontalement au diable et aux esprits mauvais en les provoquant, en les insultant. Et Jude les trouve bien présomptueux d'attaquer ainsi ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne connaissent pas. Le monde spirituel, le monde des esprits, est une réalité. Et Jude parle beaucoup dans sa lettre des anges. Les anges ont des obligations, un rang à tenir, et certains se sont rebellés contre Dieu, et Dieu les jugera. Et ce n'est pas aux chrétiens de se charger de leur jugement et de leur condamnation. Jude cite l'exemple de l'archange Michel, le chef des armées célestes, quand même, c'est pas rien, qui n'ose pas insulter le diable. Et lorsqu'il l'affronte, il lui dit que le Seigneur te rabroue. Il en appelle au Seigneur pour le juger. Cette erreur de positionnement vaudra à ces faux enseignants le même jugement que ceux que Genèse 6 appelle les fils de Dieu et qui ont pris des femmes humaines pour s'unir à elles. Ils n'ont pas su rester à leur place. Dieu les garde désormais pour le jugement. Finalement, les faux prophètes méprisent la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, ce n'est pas seulement un esprit. Il est venu sur la terre. Il a été complètement homme. Et il s'est comporté de façon sainte. Et ses disciples sont invités à faire de même. On ne peut pas appeler Jésus-Christ Seigneur et rejeter son enseignement de vie. Rejeter son éthique, les commandements moraux qu'il nous a donnés. Ces faux prophètes pensent par leur réflexion erronée découvrir de nouvelles choses alors que ce qu'il faut savoir sur Dieu nous a été révélé. Jude le rappelle, la foi nous a été transmise une fois pour toutes. C'est au verset 3. Les faux prophètes pensent, par leur réflexion erronée, découvrir... Ça, je l'ai dit, ça. Eux, ces faux prophètes, ils ne se basent que sur leur instinct. Et c'est ironique. Eux, alors qu'ils pensent qu'ils réfléchissent, qui pensent avoir découvert, par leur réflexion, par leur intelligence, des nouvelles choses, des choses précieuses, bien, ils sont comme des animaux, finalement, dépourvus de raison. Ils préfèrent écouter leur instinct plutôt qu'écouter la vérité qui leur a été donnée. Et c'est là qu'ils renient Jésus-Christ. Ils ne lui sont pas soumis. Il n'est pas leur Seigneur, leur seul maître. Et c'est le plus grave. Car ils ont connu Dieu. La vérité leur a été annoncée. Ils savent que le salut se trouve en Jésus-Christ et malgré cela, ils s'écartent de son message, ajoutant leurs propres intuitions erronées plutôt que d'écouter celui qui est le Seigneur. Cette grave erreur leur vaudra le même jugement que les Israélites qui, après avoir été délivrés de l'esclavage, après avoir vu Dieu à l'œuvre, n'ont pas cru qu'il les mènerait dans la terre promise. Et comme ceux qui n'ont pas cru sont morts dans le désert, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur ne seront pas sauvés par lui. Nous avons souligné trois accusations que Jude lance contre les faux prophètes qui sévissent. Ils mènent une vie dissolue, ils traitent les esprits avec légèreté et surtout, ils rejettent la seigneurie de Jésus. On pourrait dire encore bien des choses à leur sujet. En effet, Jude continue, à l'aide d'illustrations, à dresser un portrait évocateur de ces faux prophètes. Comme je vous le disais, la réflexion sur ces traits évocateurs nous permet en creux d'étudier notre caractère. Aussi, n'hésitez pas à relire chez vous le livre de Jude. Peut-être y découvrirez-vous des choses à surveiller dans votre vie, dans votre Église, dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais nous allons avancer et regarder les conseils que Jude donne à ceux qui font face à ces faux prophètes. Ainsi, Jude met en garde face à ces faux enseignements, ces faux enseignants, ces interlocuteurs. Et ces interlocuteurs ont une double responsabilité. La première est la responsabilité de démasquer les faux enseignements. Pour cela, il leur donne plusieurs conseils. Il leur rappelle d'abord que la foi a été donnée une fois pour toutes, nous l'avons dit. Même si au moment où Jude écrit, le Nouveau Testament n'est pas encore terminé, les chrétiens connaissent la foi, cette foi qui a été donnée une fois pour toutes. Il s'agit du message de Jésus-Christ, message transmis par les apôtres, ceux qui ont vu le Christ et qui ont reçu pour mission de le transmettre. Ce message, les chrétiens ont la responsabilité d'y rester fidèles, de ne pas se laisser entraîner d'un côté, de l'autre, au gré des enseignements fantaisistes qui circulent. Jude leur donne le conseil suivant, bien-aimés. Construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Veillez sur votre foi. Mais en plus de veiller sur leur foi, il leur demande de s'occuper les uns des autres. Suivre Jésus, ce n'est pas chacun pour soi, chacun veille sur sa foi dans son coin. Non, en suivant Jésus, je suis responsable non seulement de moi-même, mais aussi des autres. Responsable de leur dire quand ils s'éloignent de la vérité. Jude invite à avoir de la compassion pour ceux qui s'égarent. C'est le terme qu'il emploie au verset 22. De la compassion, c'est-à-dire de la sympathie pour eux, du souci pour ce qu'ils traversent. Et s'il est possible de les remettre dans le droit chemin, il faut le faire d'urgence. Mais il arrive que le frère soit enfoncé dans son erreur, qu'il ne soit plus possible de l'en sortir. Et à ce moment-là, il faut éviter tout ce qui pourrait nous contaminer, nous entraîner. Jude parle de ces faux prophètes comme les écueils de nos repas fraternels. Les écueils, ces pierres, ces rochers qui sont cachés sous la mer et sur lesquels, si nous passons, nous pouvons échouer, écouler. Ce sont des choses à prendre au sérieux. Voici donc le message de Jude pour l'Église. Vient à présent la question qui nous intéresse, quelle application en tirer pour nous aujourd'hui? Quelle application? L'application, c'est certainement pas de nous lancer dans une inquisition systématique à traquer les petites erreurs les uns des autres. Il faut prendre conscience que ce que révèle Jude, ce ne sont pas des broutilles, c'est grave. Et c'est pour ça qu'une intervention de chacun dans cette communauté, à cette époque, était nécessaire. Mais sans nous lancer dans des enquêtes systématiques sur la foi de notre voisin, prenons garde. Aujourd'hui aussi, des faux enseignements circulent. Avec tout ce qui sort en livre, et mieux encore, avec Internet, il y a moyen de faire circuler pas mal de faux enseignements. Et certains de ces enseignements sont institutionnalisés. Et j'aimerais m'attarder sur un exemple. Il existe aujourd'hui, en théologie, des gens qui prétendent faire le tri dans la parole de Dieu. Ils disent « Dieu est amour ». Dieu est amour et tout ce qui est dans la parole de Dieu doit montrer que Dieu est amour. Et c'est sur ce critère qu'ils font le tri dans la parole de Dieu. Alors par exemple, quand il est écrit dans 1 Corinthiens 6, « Ne vous y trompez pas, il n'y aura pas de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. » Quand on tombe sur un tel texte, ils disent ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas vrai, ça, c'est pas de l'amour. Dieu aime tous les hommes. Il ne va pas exclure de son royaume certains pour ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'on peut entendre. Voilà un enseignement qui est donné. Mais il se trompe. Oui, Dieu est amour. Mais il n'est pas amour parce que je le ressens, parce que c'est mon intuition. Il est amour parce que c'est écrit dans la Bible. C'est la Bible qui nous apprend que Dieu est amour. Et la Bible nous explique que Dieu est amour, mais aussi quel est cet amour et comment il se comporte avec cet amour. Et que le jugement dont je viens de parler, qui se trouve en 1 Corinthiens 9, fait partie de cet amour. La Bible, la parole de Dieu, est quelque chose que nous devons comprendre. Et ce n'est pas, comme ces gens peuvent l'enseigner, notre compréhension qui doit être le filtre sur la parole de Dieu. C'est un raisonnement à l'envers. Aujourd'hui, certains parlent de Dieu, déclarant savoir des choses, alors qu'en fait, ils se basent sur leur instinct, sur leur intuition. Face à de faux enseignements, comment pouvons-nous réagir? Je vous propose trois leçons tirées de notre lecture de Jude. Tout d'abord, il est de notre responsabilité de garder une foi saine. Nous ne pouvons pas vivre dans un assistanat spirituel et croire tout ce qui nous est dit. Nous devons examiner ce qui nous est enseigné et retenir ce qui est bon. Mais comment faire ? Comment faire le tri ? Eh bien, c'est la deuxième leçon de Jude. Souvenons-nous que la foi a été donnée une fois pour toutes. Les apôtres ont mis par écrit l'enseignement de Jésus-Christ. La rédaction de la Bible est terminée. Nous l'avons entre les mains. Elle est complète. Elle ne bougera plus. Et c'est elle qui saura, qui doit être notre filtre pour retenir ce qui est bon dans ce qui nous est enseigné. La troisième leçon, eh bien, la Bible, c'est de la lire régulièrement. La lire et la relire. Il faut la lire et la méditer non seulement pour la connaître, pour connaître les récits, les commandements, les recommandations, les avertissements. Mais il faut aussi la méditer pour nous laisser imprégner jusque dans les détails, afin que, comme Jude, nous soyons capables, dans ce que nous voyons autour de nous, de discerner les exemples, de discerner comment ces enseignements s'appliquent à notre monde d'aujourd'hui. Comment nous pouvons tracer des parallèles entre les récits passés et les situations présentes. Je disais au début de cette prédication que notre texte était difficile, que nous n'en ferions qu'un survol, que j'espérais que nous pourrions tirer quelque chose pour notre vie chrétienne. Et j'aimerais que nous retenions, c'est ceci. Au XXIe siècle encore, il peut y avoir des faux prophètes, des gens qui répandent des faux enseignements. Il est de notre responsabilité de veiller sur notre foi et de ne pas nous laisser entraîner par leurs discours. Et pour ceci, nous avons la Bible, la parole de Dieu, et nous avons l'aide de Dieu lui-même qui, par son esprit, nous aide à la comprendre, nous assiste dans notre lecture. Alors, confions-nous à lui, et c'est ainsi que Jude termine son épître, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'était il y a longtemps que ton Fils Jésus sillonnait les routes de notre monde pour nous parler, pour nous enseigner sur ton royaume. Et en 20 siècles, Seigneur, cet enseignement a été attaqué à maintes et maintes reprises. Et je veux te louer, Seigneur, parce que tu l'as sauvegardé. Je veux te louer parce que tu as fait parvenir jusqu'à nous la Bible, ta parole. Je veux te louer parce que tu as donné au cours des âges à ton Église des enseignements, des enseignants pour recadrer quand il y en avait besoin. Et Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous aides, nous aussi, aujourd'hui, à notre échelle, à sauvegarder ta parole, à y rester fidèle, fidèle à l'enseignement qui nous est transmis, et non pas à la recherche de quelques dernières modes. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour le faire. Guide-nous pour faire le tri dans ce qui nous est enseigné et pour t'être fidèle jour après jour. Au nom de Jésus, qui est lui-même la parole, nous te prions. Amen.